Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Thomas Soto.
Et Aude Vernuccio pour le journal. Bonsoir Aude.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
À la une ce soir, le coronavirus acte 2, comme il est loin le temps de l'insouciance estivale.
On couvre feu dans 54 départements. Le mois de novembre va être éprouvant, prévient le Premier ministre. On ira à la rencontre des habitants d'Albi dès le début de ce journal. Le monde du spectacle et du cinéma peut-il survivre à la deuxième vague? Roselyne Bachelot débloque 115 millions d'euros supplémentaires. Au lendemain de l'hommage national à Samuel Paty, deux collégiens mis en examen. On verra quelles sont leurs conditions et les conditions de leur contrôle judiciaire. Aux États-Unis, dernier débat entre Donald Trump et Joe Biden ce soir à J-12 de la présidentielle. Ça promet. Et puis Mbappé, inconsolable, il a perdu son plus jeune supporter, Lucas, 8 ans, des suites d'une longue maladie.
RTL Soir.
Jean Castex annonce clairement la couleur. La situation est grave. Couvre-feu étendu dans 38 départements et un territoire d'outre-mer, la Polynésie française. 46 millions de Français sont concernés. Le coronavirus circule très rapidement. On fera le point dans un instant. Mais partons d'abord à Albi, dans le Tarn, où le couperet est tombé. Patrick Hisson, vous avez rencontré des habitants très remontés.
Oui, à commencer par les cafetiers et restaurateurs. Ils organisaient une réunion de crise cet après-midi. Ils ne digèrent pas ce soir ce nouveau dispositif, à l'image de Luc Massol, le patron d'un pub albigeois.
Aujourd'hui, il y a de la colère et un peu de désespoir quand même. On nous dit qu'il y a des clusters dans les bars, mais il n'y a aucune étude nous l'a prouvé.
À ses côtés, Jean-François Miquel est très pessimiste pour l'avenir de sa brasserie.
On a encore une semaine de vacances avec Toussaint, mais très certainement le 2 novembre, je vais fermer mon établissement. Et il y a 30 salariés qui seront au chômage partiel.
Dans la rue, les Albigeois ont également marqué leur incompréhension en apprenant la nouvelle. Et les plus jeunes ont parfois prévu de contourner le dispositif.
Moi, je pense que ça ne va rien changer. Si on veut se voir, on va chez les amis avant 21h et on repart le lendemain matin.
Même les plus âgés ne sont pas convaincus.
Je suis un citoyen et je respecte toujours la loi. Même si je trouve que c'est exagéré et que c'est un peu n'importe quoi.
Entre colère, incompréhension et surprise, à Albi, le couvre-feu a ce soir beaucoup de mal à passer.
Reportage signé Patrick Hisson en région Occitanie pour RTL. Nous ne sommes pas à l'abri de mesures encore plus dures. Jean Castex en appelle à la responsabilité de chacun. Les mots sont durs. Marie Mollet, on assiste clairement à un changement de ton ce soir.
Oui, l'heure est grave et le temps presse. Voilà le message de Jean Castex ce soir. On est bien loin du vivre avec le virus de ces derniers mois. Novembre sera éprouvant, prophétise le Premier ministre qui insiste sur le risque mortel de l'épidémie. Le Covid tue, objectif, faire peur et provoquer un électrochoc.
Les semaines qui viennent seront dures. Nos services hospitaliers vont être mis à rude épreuve et le nombre de morts va continuer d'augmenter. Les nouveaux cas d'aujourd'hui sont les malades hospitalisés de demain et malheureusement parfois les morts d'après-demain.
Alors le Premier ministre appelle encore à la mobilisation de tous les Français, s'isoler, respecter les gestes barrières. Et la menace n'est même pas voilée. Si ça ne marche pas, les mesures seront encore durcies.
Si nous ne réussissons pas collectivement à juguler l'épidémie, nous ferons face à une situation dramatique et nous devrons envisager des mesures beaucoup plus dures. Il est encore temps de l'éviter, mais il ne nous reste plus beaucoup de temps.
Un couvre-feu plus tôt, voire un reconfinement total. Le mot n'a pas été prononcé ce soir, mais le but était de le mettre dans toutes les têtes.
Analyse signée Marie Mollet pour RTL. Dans le détail, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse, l'Oise, le Pas-de-Calais, dans tous ces départements, vous ne pourrez sortir après 21h que sous condition. Travail de nuit, urgence médicale, assistance à une personne fragile. Une attestation vous sera demandée à minima jusqu'à 6h du matin. Pour les autres, restez chez vous. Le télétravail est vivement recommandé et les rassemblements limités à 6 personnes.
Quelques chiffres quand même. Le nombre de cas a doublé en 15 jours. 4 régions sont particulièrement touchées. Il s'agit de l'Auvergne-Rhône-Alpes, la région PACA, les Hauts-de-France et l'Île-de-France, où plus de la moitié des lits de réanimation sont occupés désormais par des formes graves du Covid. La deuxième vague est donc bien là, Aude.
Les aides économiques sont d'ailleurs étendues à tous les territoires concernés. Pour la culture, secteur plus que sinistré, la ministre Roselyne Bachelot débloque 115 millions d'euros pour le cinéma, mais aussi le théâtre, l'opéra, la comédie musicale, la danse. Jean-Marc Dumontet est propriétaire de théâtre, producteur de spectacles et président de JMD Productions.
Ce qui est important, c'est qu'il y a à nouveau un soutien. Ce qu'il faut, c'est éviter que tout un secteur tombe. Ce qu'il faut, c'est éviter qu'ils ne puissent pas se relever, et toutes ces mesures vont dans ce sens. Ce qui est important, au-delà de la déclaration de la ministre, c'est de bien dire que nos théâtres sont ouverts. Et ce qui est important dans la proposition du ministre, c'est qu'elle balaye toutes les professions de notre métier, y compris les auteurs, qui sont souvent oubliés. Donc c'est évident qu'on est un secteur qui a besoin d'être soutenu, mais c'est aussi important de dire que nos théâtres sont ouverts, qu'ils accueillent du public, et que les conditions sanitaires aujourd'hui sont parfaites, qu'il n'y a aucun risque d'aller dans nos théâtres.
Voilà, le plaisir du théâtre est le même un peu plus tôt, donc vraiment, vraiment pour les aider à aller au théâtre et aller au cinéma, propos recueillis par Julien Fautra pour RTL.
Et aujourd'hui, c'est toute l'Europe qui remet un tour de vis. Confinement total en Irlande, partiel en République tchèque, couvre-feu dans certaines zones en Italie, mais aussi en Grèce, on l'apprend ce soir, à Athènes et Thessalonique, ce sera à partir de samedi.
Dans l'actualité également, ce jeudi, les suites bien sûr de l'enquête après l'assassinat de Samuel Paty.
7 personnes sont mises en examen, parmi elles les 2 collégiens de 14 et 15 ans accusés d'avoir fourni des informations à l'assaillant pour identifier sa victime. Ils ont été remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire. Thomas Proutot, bonsoir.
Bonsoir.
Quelles sont leurs obligations ?
Eh bien, la première, la principale, c'est l'interdiction de paraître dans 2 départements, les Yvelines, là où se trouvait leur collège, le collège de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, et le Val d'Oise, là où l'enseignant a été assassiné et le tueur abattu à quelques centaines de mètres de l'établissement. Ils ont également interdiction d'entrer en contact de quelconque manière avec les autres mis en examen, de sortir du territoire national et ils sont soumis à un strict suivi psychologique. Jackie Attias est l'avocat du plus jeune, âgé de 14 ans.
C'est extrêmement dramatique et je le dis pour que l'on l'entende clairement, en tous les cas la défense ne cherchera aucune excuse. Elle essaiera simplement de comprendre comment des jeunes ont pu se laisser manipuler et céder à la tentation.
L'adolescent qu'il représente a donc quitté son domicile pour être accueilli par d'autres membres de sa famille, quelque part en France. Le lieu est bien entendu confidentiel. Le juge lui a signifié un donnant-donnant, pas de prison dans l'immédiat, en échange d'un respect pointilleux de ses obligations judiciaires jusqu'au procès d'ici à plusieurs mois.
Thomas Proutot du service police-justice d'RTL.
J-12 avant la présidentielle américaine. Dans quelques heures, ce sera le dernier débat entre Donald Trump et Joe Biden. Débat télévisé, direction donc les États-Unis tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
19h08, la suite du journal avec vous. Aude Vernuccio, sera-t-il aussi chaotique que le premier ? On le saura dans quelques heures puisque aura lieu le dernier débat avant la présidentielle américaine du 3 novembre.
Et oui, c'est dans moins de 2 semaines. Alors on se souvient du premier affrontement télévisé Trump-Biden. Agacement, attaque à la limite des insultes. Le candidat démocrate avait même demandé au président de la fermer, Philippe Corbet.
Oui, et ce soir ici à Nashville, il va devoir la fermer. En tout cas, son micro sera fermé. La règle traditionnelle de ces débats, c'est que pour chacun des 6 thèmes préalablement définis, chaque candidat dispose de 2 minutes pour exposer son point de vue sans être interrompu. Règle totalement piétinée par le président lors du premier débat. Donc, il a été décidé que pendant ces séries de 2 minutes, le micro sera désormais coupé pour le candidat qui n'a pas la parole. Donald Trump a protesté, il joue les victimes, mais certains de ses proches espèrent que cette nouvelle contrainte aidera le président à avoir un message plus cadré, à contrôler davantage ses instincts. Il conseille sans cesse d'être plus discipliné dans ses messages en parlant surtout d'économie plutôt que d'agresser verbalement Biden. Pour Donald Trump, c'est probablement la dernière chance de renverser la vapeur, d'autant que 40 millions d'Américains ont déjà voté. Beaucoup de ses soutiens reconnaissent qu'il a fait une erreur stratégique en étant trop violent lors du premier débat. On a constaté un décrochage net dans les sondages, puis une seconde erreur stratégique en boycottant le second débat, en se privant ainsi d'une exposition maximale. Autre nouveauté ce soir ici, des barrières de plexiglas ont été installées entre leurs pupitres.
Philippe Corbet, correspondant d'RTL aux États-Unis.
L'histoire à présent, l'histoire triste d'une star du foot et d'un petit garçon courageux de 8 ans mais emporté par la maladie.
Vous avez peut-être vu Kylian Mbappé lever son maillot du Paris Saint-Germain et montrer un t-shirt sérigraphié Courage Lucas, un enfant dont le joueur s'était lié d'amitié qui a succombé à sa maladie. Retour sur cette incroyable amitié avec vous Christian Olivier.
Et même une histoire d'amour, de protection et d'encouragement née en août dernier lorsque le Paris Saint-Germain reçoit un message vidéo du petit Lucas, fidèle supporter du club parisien, obligé de suivre la finale de Ligue des Champions de son lit d'hôpital.
Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 8 ans, je suis un grand fan du PSG et je vous encouragerai à de la télé et je vous fais plein de bisous.
Gros bisous, bisous, bisous. Lucas est mis en relation grâce à une formidable association, Les Petites Bosses, qui vient en aide aux enfants malades. Et peu importe la finale perdue, Kylian Mbappé tient sa promesse, rend visite à Lucas, photographie avec le maillot du PSG, le sourire du gamin sur les genoux de la star parisienne est craquant. Il aide le bout de chou dans ce match que sa maman ne désespère pas de gagner, confiait-elle sur France 2.
Les larmes sont venues tellement heureuses pour mon petit garçon. Ça lui permet vraiment d'avoir encore plus de courage pour combattre cette maladie.
Vendredi dernier, buteur à Nîmes, Mbappé soulevait encore son maillot pour y adresser un « Courage Lucas, je suis avec toi ». Le petit en a eu du courage et jusqu'à son dernier souffle. Dans un émouvant message posté cet après-midi sur les réseaux sociaux par le footballeur, on peut lire « Je vais essayer de te rendre fier parce que c'est toi le vrai héros ».
Christian Olivier du service des sports d'RTL. On termine par du football avec ce soir de la Ligue Europe. Le Bayer Leverkusen affronte l'OGC Nice. Le coup d'envoi a été donné il y a environ 10 minutes, hein, Michael Lefebvre.
Ouais, 17 minutes très exactement. Au des entames de match catastrophique des Niçois puisqu'ils sont déjà menés 2-0 sur la pelouse de la Bayer Arena. Deux buts inscrits par Amiri et Alario. 2-0 donc pour Leverkusen face à Nice. Ça part très mal cette campagne de Ligue Europa pour les Aiglons.
Merci à vous Michael Lefebvre. Autre rencontre à suivre ce soir, Lille qui affrontera le Sparta Prague, coup d'envoi à 21h.
Et on fera des points jusqu'à 20h avec Michael Lefebvre sur ce match. Il y a d'autres buts en espérant qu'ils soient un peu de l'autre côté. Merci beaucoup à vous. De la météo, Peggy Broche, demain c'est moche.
Oui c'est vrai, c'est moche en gros, mais alors je vais rentrer dans les détails, ça va concerner les trois quarts du pays. Toute la moitié sud et l'est, on a des pluies, alors des pluies soutenues en plus et parfois orageuses dans le sud-est, entre la vallée du Rhône et les Alpes, toute la journée, situation à surveiller. L'après-midi, le temps sera plus sec sur la Côte d'Azur, mais ça restera couvert. Et puis, un peu plus d'éclaircies sur les Pyrénées orientales. Dans la journée, le reste de la moitié sud, on va en remontant du sud, en remontant vers le Grand Est. Là, on pourrait avoir quelques trouées, mais les orages vont se généraliser. Et puis finalement, c'est sur le nord-ouest, en fait, que le temps sera plus agréable, avec beaucoup de nuages le matin, certes, mais dans l'après-midi. Retour d'éclaircies, des éclaircies plus belles, d'ailleurs, entre les Pays de la Loire, le centre et la région parisienne et le nord. Sur les côtes de la Manche, on pourra avoir une petite averse, mais pas grand-chose. Et puis, il y a une nouvelle perturbation qui va arriver également sur la pointe Bretonne. Tout ça sous des températures qui vont encore baisser un petit peu, mais on sera encore au-dessus des normales, 17 à Caen, ainsi qu'à Orléans, Strasbourg, Lille, Limoges et Tarbes, 18 à Paris, 19 à Clermont-Ferrand et Agen, 21 à Marseille et 23 à Perpignan.
Il y a un week-end.
Pardon ?
Le week-end.
Eh oui. Mais soyez, dites ça avec le sourire parce que j'ai une bonne nouvelle.
Ah, le week-end alors.
Enfin, tout est relatif. Samedi, ça ira mieux avec un ciel...
Quelle vendeuse de soupe.
Un ciel un petit peu plus nuageux sur la moitié nord, c'est vrai. On aura encore de faibles averses, mais quelques éclaircies. On n'aura pas de grosses pluies comme ce qu'on a de prévu demain. Et plus on ira vers le sud, plus le soleil va s'imposer. Bon dimanche, une nouvelle perturbation avec de bonnes pluies entre la façade aquitaine, la région parisienne, les frontières belges. Ça va continuer sur le nord-ouest entre nuages, éclaircies et quelques averses. Et puis à l'est, là, le soleil va s'imposer. Sauf sur le Languedoc-Roussillon, ça restera couvert avec de faible pluie, le tout sous des valeurs de saison, une moyenne de 16 au nord et 19 au sud. On a une petite amélioration samedi, positive.
On fait avec ce qu'on a en ce moment.
Exactement,
hein.
On n'a pas le choix.
Merci beaucoup, Peggy, merci.
Il y a un an, il y a un siècle,
le droit de suite sur l'actualité d'RTL Soir avec vous, Guillemette Franquet. Bonsoir, Guillemette.
Bonsoir, Thomas.
Nous sommes donc le jeudi 22 octobre 2020 et vroup, on remonte 4 ans en arrière au 22 octobre 2016.
Et ce 22 octobre 2016, Donald Trump n'est pas encore président des États-Unis. Il est en meeting et prononce cette phrase.
Je ne suis pas un politicien et je n'ai jamais voulu en être un.
Il n'a peut-être jamais voulu être politicien, mais ce 22 octobre, le candidat présente une partie de son programme.
Voici mon plan d'action sur 100 jours pour rendre sa grandeur à l'Amérique.
Avec parmi les nombreuses mesures, réduire les impôts, se retirer du traité de libre-échange transpacifique et aussi des phrases choc dont il a le secret.
Je demande aux Américains de rêver en grand à nouveau.
Rêver grand, en tout cas, le retrait du traité transpacifique, c'est fait 3 mois plus tard. Une grande baisse des impôts aussi, 11 mois plus tard.
Et là, on est 4 ans plus tard. Le président Trump est évidemment de nouveau en campagne, on en parlait.
Et avec ce soir, le deuxième et ultime débat face à Joe Biden. Biden qui a 10 points d'avance sur Trump dans les sondages et qui reçoit un soutien de poids. Barack Obama, himself, en meeting hier pour soutenir le candidat démocrate.
Nous ne pouvons pas être complaisants. Je me moque des sondages. Il y avait déjà plein de sondages la fois dernière et plein de gens sont restés à la maison. Ils avaient la flemme, pas dans cette élection, pas cette fois.
Le premier débat Biden-Trump fin septembre était, lui, plutôt catastrophique.
Ouais, on en parlait à l'instant, ouais.
Analyse de Philippe Corbet, vous le connaissez bien, c'est le correspondant de RTL aux États-Unis.
Donald Trump, brutal, erratique, moqueur, menteur, essaye encore et encore de faire sortir Biden de ses gonds. Ça marche à quelques reprises. Tu vas la fermer, mec, répond Biden. C'est le peuple américain qui peut être écœuré.
Le peuple américain qui se rendra aux urnes dans 12 jours, le 3 novembre.
Merci beaucoup à vous, Guillemette, pour ce droit de suite. À suivre d'ici 20h, le monde tel qu'il est. Et le mot du jour, c'est brouillard. Celui dans lequel on nage avec ce virus qui décidément n'en fait qu'à sa tête et qui nous promet des lendemains qui déchantent.
Le mois de novembre sera éprouvant. Nous le savons déjà.
Nous en parlerons avec un infectiologue, un restaurateur, un épidémiologiste et le maire de Foix, président des maires de l'Ariège, département qui lui aussi basculera dans le couvre-feu à partir de ce samedi 0h. Puis ce sera le monde de demain. Céline Landreau a trouvé plus fort encore que les sacs biodégradables, les sacs que l'on mange. Quant à vous, Cyprien Signy, bonsoir.
Bonsoir à tous.
De quoi allez-vous nous parler ?
Eh bien, dans le monde de demain, vos papilles trahiront vos choix politiques.
Ça alors, on peut plus manger sans savoir pour qui on vote. Exactement. Voilà pour le programme des minutes qui viennent.
Le monde tel qu'il est, c'est dans un instant sur RTL.